Place Info.
Et le retour d'un air bien connu, hein, celui du tous pourris. Une semaine d'actualité dans les prétoires. Patrick Balkany condamné, Richard Ferrand mis en examen, François Bayrou auditionné. La semaine prochaine, ce sera au tour de Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Sarkozy de se retrouver dans les tribunaux. Et on en débat avec, non pas nos insoumis, mais nos informés du soir. Raphaël Haddad, docteur en sciences de l'information et de la communication, fondateur de l'agence Mot-Clé. Très bien entouré, Raphaël, aux côtés de Valérie Acco, pardon, journaliste politique au Parisien. Marie-Pierre Vieux, directrice des éditions Arcane 17. Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes.
Bonsoir
à tous et bienvenue à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur France Info et Canal 27 de la TNT à la télévision. Patrick Balkany passe donc sa deuxième nuit en prison dans une cellule de 9 mètres carrés. Il a accès au téléphone, à une télévision et il a peut-être vu ces images, ces édiles de ces habitants de Levallois rassemblés tout à l'heure devant la mairie. Un livre d'or a été entreposé devant l'hôtel de ville. Quelques réactions de Levalloisiens après sa condamnation.
Il a fait des bêtises, c'est à lui payer, mais en tant que maire, il a fait des choses magnifiques sur Levallois.
Il a joué avec le feu et puis il s'est brûlé et puis voilà.
Je suis écœuré, je suis un peu... Je trouve que c'est très très violent, c'est très très violent comme sentence. C'est des gens qui ne méritent pas ça.
Il fait tout ce qu'il peut pour tout le monde. Comment on peut en arriver à prendre une décision pareille et l'emmener comme un criminel en prison? Voilà.
Bon, moi si j'avais fait la même chose, je serais peut-être déjà en prison depuis un certain temps.
On a donné à Patrick ses médicaments, il a dormi, voilà, vous inquiétez pas.
J'espère que ça passe bien.
Valérie Acco du Parisien, on a vu réaction mitigée à Levallois et puis à la fin c'est Isabelle Balkany qu'on entend. Ça change quoi, Patrick Balkany en prison, Isabelle Balkany qui assure l'intérim?
C'est un petit peu baroque, d'autant qu'Isabelle Balkany, elle a quand même elle-même aussi été condamnée. Donc effectivement, pour faire un intérim, ça nous donne une situation particulière. Mais bon, elle a fait appel, c'est vrai qu'elle est première adjointe. Donc voilà, elle le fait. Puis Isabelle Balkany, elle profite aussi de l'occasion pour avoir une tribune ouverte, pour continuer à défendre son mari. On l'a vu ce matin sur le marché de Levallois, à défendre sans cesse Patrick Balkany.
Armelle Le Goff, de 20 minutes, c'est cette communication autour de Patrick Balkany, de la part de son épouse notamment, est-ce que... Ça peut être de nature à, à glaner un peu de points auprès de l'opinion publique. Est-ce que ça peut apporter de la sympathie?
Je crois que c'est un couple qui est quand même très sympathique. Après, ils ont eu, Patrick Balkany a eu une défense un petit peu baroque lors de son procès. Et je crois que ça ne les a pas forcément portés, en tout cas face à la justice. Là, il y a un deuxième volet qui doit s'ouvrir en octobre et sans doute qu'ils auraient intérêt à être un petit peu moins dans la provocation. Même sa défense, Maître Dupond-Moretti, on l'a quand même entendu expliquer à la barre qu'après tout, la fraude fiscale, c'est un sport très partagé en France. C'est quand même assez original.
Vous évoquez Maître Dupond-Moretti, justement, il était l'invité tout à l'heure de Camille Revel sur France Info. On va l'écouter. Il a demandé à ce que son client soit remis en liberté.
Délai de la loi, c'est 2 mois. Je ne peux pas vous en dire plus. J'ai déposé la demande hier. Vous imaginez bien que dans les heures qui suivent, je ne suis pas prévenu d'une date d'audience. Ça va se faire dans les jours. Voilà, dans ce délai-là, qui est le délai légal.
Est-ce que Raphaël Haddad, Monsieur Dupond-Moretti, peut espérer la libération de son client? Est-ce que sa communication indignée, en tout cas, peut faire bouger les choses en faveur de son client?
Force est de constater que cette communication indignée, l'idée sur laquelle il a essayé de communiquer, à savoir qu'il ne fallait pas faire de Patrick Balkany un exemple, je crois que sa phrase c'est « lorsque la justice est rendue au pied du mur de l'exemple, c'est une bien mauvaise justice », c'est une communication qui n'a pas du tout marché sur le plan judiciaire, si on croit la sévérité de la peine qui a été donnée à Patrick Balkany. Donc là, il y a sans doute quelque chose qui mériterait d'être révisé de ce point de vue.
Mais du coup, quel serait l'objectif? Ce serait vraiment de le libérer ou ce serait de préparer justement l'audience à venir, le deuxième volet, celui du 18 octobre sur le blanchiment?
Bon, après la question de sa libération, c'est une question qui ne repose pas sur des hypothèses de communication. C'est plutôt quelque chose qui va se traiter sur un plan judiciaire. Le mandat de dépôt a été donné parce que La Cour a estimé qu'il y avait un risque de fuite. Il y a peut-être aussi en tête le précédent Jacques Médecin, hein, qu'il ne faut pas oublier, qui avait fui en Amérique latine et il avait été condamné en Uruguay, je crois, ou au Paraguay, puis avant d'être extradé en France. Donc il y a ce précédent-là. C'est pas si souvent non plus que des responsables politiques écopent de peines de prison ferme sur des délits financiers. Donc il y a, c'est peut-être la raison pour laquelle la justice a considéré qu'il fallait le mettre en prison directement. On verra si elle amende cette décision dans les prochaines heures.
Marie-Pierre Vieux, des éditions Arcane 17. Vous n'êtes pas du tout sensible à cette communication du procès politique. On a voulu faire Patrick Balkany un exemple, disent ses avocats.
Disons que sur Patrick Balkany, je suis pas très sensible. Je crois qu'il y a quelque chose qui a été dit, qui a été fort dans le reportage. C'est que quelqu'un d'anonyme, hein, qui ne paie pas ses impôts, qui pratique la fraude fiscale, il part en prison. Donc je crois que c'est cette question qui est la question de fond. Après, je crois que ce qu'il faut noter quand même, quand on regarde ces images, c'est la réaction de la population à l'égard du maire. Et d'autre part, c'est le fait, mais vous venez de le dire, que cela va continuer à créditer l'idée qu'en politique, il y a quelque chose quand même qui est cassé et qu'il faut changer de modèle.
C'est une crainte que vous avez
vous, C'est même plus
vous
qu'une avez crainte, été, c'est une réalité, parce que ça participe d'une petite musique de fond qui fait que derrière, eh bien, on a un terrain où tout peut s'engouffrer, le meilleur comme le pire.
Armelle Le Goff, est-ce qu'on peut être un bon maire et un mauvais citoyen, par exemple, ne pas payer ses impôts?
Bien sûr, je crois que c'est possible. Patrick Balkany nous l'a prouvé. En revanche, est-ce que les citoyens ont envie de voter pour des personnalités qui se comportent de cette façon? Ça, c'est autre chose. Là, il se trouve qu'il est condamné à une peine d'inéligibilité. Donc, la question ne se posera, enfin, sauf s'il fait appel et qu'il obtient en appel. Mais ça semble peu probable. Voilà, la question ne se posera plus.
Et on posera la question, justement, juste après le rappel de l'information avec Léo Téchère. Il est bientôt 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Léo.
C'était le 44e samedi des Gilets jaunes, de retour à Nantes aujourd'hui pour une mobilisation nationale. 1800 manifestants selon la police et très peu de gilets fluorescents. En fait, beaucoup de black blocs et quelques dégâts. Des vitrines cassées, 3 policiers et 2 gendarmes blessés. 35 interpellations à déplorer. Un ministre à la fête de l'UMA, Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, invité à débattre avec le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Jean-Paul Delevoye, plusieurs fois sifflé par les centaines de spectateurs. Lui aussi sifflé, mais à la fin, il marque. Neymar, buteur pour sa première de la saison avec le Paris Saint-Germain. Victoire 1-0 au Parc des Princes contre Strasbourg. 4 autres matchs depuis 10 minutes et déjà 2-0 pour Bordeaux contre Metz. L'équipe de France de volleyball, elle enchaîne en phase de groupe de leur Euro à domicile. Deuxième match et deuxième victoire. 3-7-0 contre la Grèce à Montpellier. Les Bleus joueront demain contre le Portugal. Et puis des milliers d'Allemands ont dit non aujourd'hui à la voiture et à la pollution. 20 000 manifestants à vélo à Francfort où se déroule ce week-end un salon international de l'automobile.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Deuxième nuit en prison pour Patrick Balkany, condamné hier à 4 ans de prison ferme, notamment pour avoir minoré le montant de ses déclarations d'impôts. Raphaël Haddad, est-ce que 4 ans pour 4 millions minorés, un an par année, c'est beaucoup, c'est exagéré, c'est habituel?
Heureusement qu'il n'a pas détourné 200 millions, vous imaginez. Non, je ne sais pas du tout si c'est habituel. Ce que je peux dire, c'est que des responsables politiques condamnés pour des délits financiers à de la peine de prison ferme, c'est rarissime. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. On est là, en effet, face à une décision qui est rare, qui est exceptionnelle. Et puis, c'est sans doute pas terminé pour lui. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire en l'état actuel. Sans doute que la défense, comme vous le soulignez il y a quelques minutes, qui a été choisie, a dénoncé un procès politique, a sans doute dû énerver aussi un petit peu les juges, n'était sans doute pas la meilleure des options pour défendre convenablement Patrick Balkany.
D'autant que ce n'est pas la première fois que Patrick Balkany est condamné et qu'il arrive à échapper ou à passer entre les gouttes d'une certaine façon. Valérie Acco du Parisien, est-ce qu'on peut envisager, aller un peu de politique fiction, qu'il soit candidat au municipal depuis sa cellule?
Pour l'instant, il est quand même frappé par une peine d'inéligibilité. Hein, donc,
factuellement, dont il fera appel, a priori.
Ouais, voilà, donc il fera appel, oui. Donc là, il ne sera plus en cellule, pour le coup. S'il fait appel, a priori, ça devrait bien se passer. Ensuite, si Patrick Balkany se représente, faisons de la fiction, hein, si effectivement il arrive à sortir de tout ça, je n'exclurais pas qu'il pourrait se faire réélire à Levallois. Hein, ça s'est déjà vu, il a déjà été condamné par le passé.
Ça fait beaucoup rire,
Patrick
Balkany,
il a été réélu triomphalement quelques années plus tard.
Mais non, ça me fait rire, mais en même temps, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir quelqu'un qui fraude à grande échelle, dont tout le monde sait qu'il fraude, et en même temps avoir un rapport aux habitants de sa ville qui est complètement disproportionné par rapport à cette réalité. Donc, faudra quand même mettre face à lui quelqu'un qui incarne autre chose.
Valérie Acco. Patrick Balkany, en plus, a su quand même vraiment bien entretenir son terrain à Levallois. Il a quand même une politique très clientéliste, et c'est vrai que ça fait de lui un maire excessivement populaire. Il faut quand même souligner que Levallois, si ma mémoire est bonne, est quand même la ville la plus endettée de France. Donc il y a aussi des problèmes de gestion.
Balkany est le Lula de Levallois, vous l'avez compris.
Le Lula de Levallois. On y reviendra parce que Lula, c'est une des références de Jean-Luc Mélenchon. Et on va y arriver. Raphaël, à date de...
Oui,
de,
non, mais bien sûr, on peut parler de la popularité de Patrick Balkany à Levallois. Moi, je voudrais quand même dire à ce sujet deux choses. D'abord, il y a tout le temps des gens qui préfèrent l'ordre à la justice, hein, et surtout quand c'est au niveau local, qu'on connaît le maire, etc. La deuxième chose, c'est que le rassemblement d'aujourd'hui, qui a été en réalité initié en sous-main par Isabelle Balkany, c'est un échec cuisant. Il y a quelques dizaines de personnes, une cinquantaine de personnes, je crois, qui ont décidé de participer à ce rassemblement, là où elle espérait que l'ensemble de la ville descendrait dans la rue. Donc ça dit aussi que ce soutien est un soutien précaire. Il y a sans doute un attachement plus patrimonial à la figure de Patrick Balkany, mais je ne suis pas certain qu'il soit en si bonne situation politique au niveau local.
En tout cas, il y a un soutien dont se prévaut aussi Isabelle Balkany, première adjointe, qui assure donc l'intérim à Levallois pendant que son époux, le maire, est emprisonné. Celui de Nicolas Sarkozy, l'ancien président, pensée amicale depuis une librairie de Neuilly-sur-Seine où il signait son dernier livre.
J'ai de la peine pour lui, je pense à lui. C'est certainement pas quand les gens sont dans la difficulté qu'il faut les abandonner. Un peu d'humanité ne fait pas de mal. Je sais la règle dans la vie politique et je connais la règle aussi de la vie médiatique. Quand vous êtes dans la tourmente, il n'y a plus personne. C'est un ami d'enfance et ça m'a fait de la peine pour lui et ça m'a fait de la peine pour elle. Et j'espère qu'ils vont tenir le coup et qu'ils vont surmonter ce qui est une épreuve. Et peut-être qu'on peut les laisser tranquilles maintenant. Peut-être qu'on peut faire preuve aussi d'un peu de... Comment dire ? De pudeur.
Un peu de pudeur, Armelle Le Goff. Ce que réclame Nicolas Sarkozy ?
Oui, je pense qu'il pense à ses propres échéances judiciaires. Donc, il réclame sans doute un peu moins d'exposition et un peu plus, pouvoir être un petit peu en recul.
Il a rendez-vous mardi avec la justice, hein, Nicolas Sarkozy. La Cour de cassation examine le pourvoi de l'ancien président contre son renvoi en correctionnel dans l'affaire Big Malion. Semaine chargée entre politique et rendez-vous judiciaire, Marie-Pierre Vieux. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui est convoqué. On a eu Richard Ferrand mis en examen. Qu'est-ce que ça dit de l'époque, François Bayrou, entendu par la justice ? Ça dit que la justice fonctionne bien, ça dit qu'il y a une judiciarisation de la politique, qu'est-ce que ça dit ?
Alors, d'abord, je voudrais dire quelque chose au regard des images de Nicolas Sarkozy, quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez insupportable.
Insupportable ?
D'insupportable, parce que regardez bien, une jeune femme qui va voler quelque chose dans un supermarché pour faire manger son petit, on la criminalise, on l'envoie parfois en prison. Et vous voyez le plaidoyer de Nicolas Sarkozy quant à Balkany, il y a quelque chose quand même, je pense, d'insupportable au regard de la réalité sociale de ce pays. D'autre part, par rapport à tout cet épisode judiciaire, je crois qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même cas. Vous venez d'évoquer Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais pas faire non plus un cas à part. La justice, elle est égale pour tout le monde.
Mais on va l'entendre tout à l'heure, d'ailleurs.
On va en parler tout à l'heure. Mais je tiens quand même à dire que quand Jean-Luc Mélenchon, pour la première fois, qu'il y a eu des perquisitions, d'abord, des perquisitions un peu disproportionnées à l'époque par rapport à l'objet même qui était cherché. Quand il y a eu cette perquisition-là, on était dans un climat politique qui était très particulier. Gilets jaunes, d'une part. La perquisition de Jean-Luc Mélenchon intervient le jour où il y a un remaniement ministériel avec bien un nouveau ministre de l'Intérieur qui est Castaner à Beauvau. Donc je crois quand même qu'il y a à ce moment-là, il y a quand même de la part du gouvernement une mise en scène. Je donnais ça à la décharge de Jean-Luc Mélenchon avec le fait ensuite que moi je plaide pour un parquet indépendant de tout pouvoir politique et financier dans un sens ou dans l'autre. Je plaide également pour que la justice donc fasse son travail et que je crois que dans le climat de crise politique que j'ai évoqué tout à l'heure ou à l'instant, il faut vraiment veiller à cette indépendance de la justice parce que si on ajoute tous les exemples dont on parle, ça crée quand même une situation qui est un peu unique dans notre pays. Et enfin, si on parle de prisonniers politiques, on en reparlera tout à l'heure, il y en a. Il y en a des prisonniers politiques. Il y en a même en Europe. Il n'y en a pas en France, il y en a juste à côté de chez nous, en Espagne. Et ceux-là sont vraiment jugés avec des peines lourdes à la clé. C'est évidemment des prisonniers politiques. Donc je crois qu'en France, il va falloir vraiment instruire ce débat au bon niveau.
Raphaël Haddad, de l'agence Mouclé.
Ouais, non, moi je suis un peu surpris parce que vous venez de dire, non pas sur la dernière partie, parce que je suis certain que vous êtes pour le coup mieux informé que moi. Mais en fait, vous êtes si on vous prend au mot, vous dites quelque chose qui est quand même assez grave. Vous êtes en train de dire que non seulement le parquet a été instrumentalisé
non,
par
je
le
n'ai pas,
si,
je n'ai
c'est
pas
ce que vous
ça,
dites,
monsieur,
mais vous dites en plus, laissez-moi terminer, vous dites en plus que ça se fait dans un timing particulièrement favorable. Donc c'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à jouer la stratégie au jour près de l'exécutif. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est quels sont les faits sur lesquels vous vous basez pour étayer ça, parce que je n'ai lu nulle part qu'il puisse y avoir quelques faits que ce soit qui étayent cette hypothèse.
Non, je fais remarquer juste, si vous permettez, que le cas de Jean-Luc Mélenchon, sur la question des attachés parlementaires, est un cas qui existe également pour le Rassemblement National ex-FN, également pour le MoDem. Ce qui est clair, c'est que dans la médiatisation, et qui n'est pas que le fait de Jean-Luc Mélenchon, mais qui est également le fait, là intervient le pouvoir, eh bien de ce qui a été sa perquisition, il y a eu quelque chose qui était de l'ordre.
Donc maintenant, c'est plus le parquet, voilà. ce sont les journalistes qui sont instrumentalisés, c'est ça ?
C'est pas les journalistes, non. Dans la manière dont les choses ont été agencées, la perquisition, elle a été faite quand même à ce moment-là, avec une certaine violence.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'hypothèse que Mélenchon a lui-même instrumentalisé cette situation à des fins...
C'est pour ça que je vous dis, in fine, d'une part, je crois qu'on est tous attachés à ce que le parquet soit indépendant et à ce qu'il le soit. Je pense que j'ai écouté il y a quelques jours Évelyne Sirmarin qui explique que Jean-Luc Mélenchon, au même titre que les autres, devait laisser passer la justice et je suis à 100% d'accord. En même temps, ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'on a évoqué un certain nombre de situations et que je ne mettais pas Monsieur Balkany au même titre que Monsieur Mélenchon.
Et on va l'entendre, voilà. Jean-Luc Mélenchon, dans quelques minutes, juste après le rappel de l'info avec vous, Léo Téchère.
Neymar sifflé, Neymar hué, mais Neymar buteur. L'attaquant brésilien permet au Paris Saint-Germain de l'emporter 1-0 contre Strasbourg. Avec la manière, petite bicyclette retournée du pied gauche. Une partie du Parc des Princes l'a donc tout de même montré que la rédemption sera longue. Sur les autres terrains de Ligue 1, Bordeaux mène toujours 2-0 contre Metz, 20 minutes de jeu et toujours pas de but entre Dijon et Nîmes, Montpellier, Nice et Brest et Rennes. En rugby, le leader Lyon écrase Brive 59-3. Bordeaux-Bègles va tenter de suivre la cadence à 20h45 contre le Stade Français. Tout à l'heure, La Rochelle a battu Toulouse 28-13. Liberty for Balkany, des dizaines de manifestants devant la mairie de Le Valois-Perret, aujourd'hui certains émus par l'incarcération de leur maire, Patrick Balkany, condamné à 4 ans de prison pour fraude fiscale. Les avocats des époux Balkany ont fait appel. La série des permanences LREM dégradées continue et pour la troisième fois, c'est encore celle du patron du mouvement qui est visée. Le local de Stanislas Guérini, tagué à Paris, 3 lettres inscrites en jaune sur les vitres FFI pour fou, furieux, indigné. Et puis c'est une prouesse technologique pour certains. Une catastrophe écologique pour d'autres, la première centrale nucléaire flottante du monde vient d'arriver à bon port dans l'extrême-orient russe, à Pevek. Elle vient de faire 5000 km de voyage à travers l'océan Arctique.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Et jeudi, ce sera donc au tour des Insoumis de se retrouver dans le prétoire. Jean-Luc Mélenchon, jugé après les accrochages en marge des perquisitions dont il était la cible en octobre. Ne me confondez pas avec les autres politiques qui ont des déboires, dit-il. Écoutez.
Je vous parle d'un procès politique, celui qui est fait à la France Insoumise. Je veux vous montrer que ce sont des méthodes inouïes qui n'ont jamais existé auparavant. Quoique beaucoup de vos collègues se soient arrangés pour faire la touillette, pour dire, ah ben oui, tout ça, c'est du pareil au même, c'est tous les mêmes, misant sur un espèce de populisme agressif de base, tout élu est suspect. Voilà. Les gens qui nous écoutent en ce moment, faut pas croire qu'ils comprennent pas ce qu'est la perversité d'un système où on vous enferme dans un bocal et il y a des murs de verre. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est la touillette. Ah, monsieur Mélenchon, vous osez protester alors que vous n'êtes pas encore condamné. Donc, faut que j'attende d'être condamné. Ah, mais les autres aussi sont condamnés. Et vous allez me mettre sur le même plan que Balkany. Et vous allez me mettre sur le même plan que madame Le Pen. etc., etc. Mais je ne suis pas d'accord. Alors, le procès politique, c'est précisément que ça donne ce résultat. Tout est pareil et on en bastille des dirigeants politiques. Pour
Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes, est-ce qu'il a raison Jean-Luc Mélenchon quand il dit « on finit au fond par mettre tout le monde dans la même marmite et par juger tout le monde de la même façon »
Je ne crois pas. Je crois d'abord qu'il n'aura pas cette ligne de défense. Enfin, j'espère en tout cas pour lui cette semaine. Et je ne crois pas qu'on le mette sur le même plan que Patrick Balkany. En revanche, ce discours pour un élu de la République qui consiste à jeter le doute sur l'institution judiciaire, alors que effectivement, comme vous le rappeliez, il n'est pas seul en cause dans cette affaire. Il y a le MoDem, il y a le Rassemblement National. C'est juste, c'est pas possible. Avant ça, c'était les médias. Enfin, toutes les institutions sont sujettes à caution avec Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que pour un élu de la République, c'est quand même problématique.
Valérie Acco du Parisien, est-ce que vous suivez l'exécutif, hein, pour le Parisien en l'occurrence. Est-ce qu'il y a cette crainte du côté de l'Élysée de dire, bah, au final, l'institution politique est décrédibilisée, on le voit dans les enquêtes. Et puis, l'institution médiatique, pourquoi pas, si tant est que ce soit une institution d'ailleurs. Demain, la justice, est-ce qu'il y a cette crainte du « tous pourris », la justice, les médias, les politiques, et qu'au final, ça leur revienne un peu à la figure en boomerang?
Disons qu'une crainte formalisée comme ça, je sais pas, mais enfin, il y a quand même cette perception, et on l'a vu l'année dernière avec les gilets jaunes, et ils s'en sont rendus compte à ce moment-là, qu'il y a une certaine, une certaine exaspération qui monte dans ce pays, et que très concrètement, cette accumulation d'affaires judiciaires, d'affaires qui touchent les politiques, ça contribue à ce climat assez pesant qu'il peut parfois y avoir dans ce pays. Mais ensuite, qu'il y ait une réelle attention de l'exécutif là-dessus, je suis pas convaincu.
D'ailleurs,
autant.
La Macronie, éclairez-nous un petit peu, un point que je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'elle serre les coudes sur le cas Richard Ferrand, président de l'Assemblée, quand elle a lâché par exemple François de Rugy, qui lui n'était pas mis en examen?
C'est vrai que c'était pour le coup, effectivement, François de Rugy n'a pas été condamné, c'était effectivement des enquêtes de presse, et Richard Ferrand a été démissionné, et Richard Ferrand reste. C'est d'autant plus surprenant qu'en 2017, quand a éclaté l'affaire Ferrand, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque il était au gouvernement. La ligne de conduite de l'exécutif à l'époque, c'était de dire tant qu'un ministre n'est pas mis en examen, il ne démissionne pas. Ça, c'était la règle. Et puis, bizarrement, on se retrouve effectivement 2 ans plus tard avec un Richard Ferrand mis en examen et qu'on garde. Le problème à l'heure actuelle pour Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut pas se permettre de lâcher Richard Ferrand. Richard Ferrand, c'est un très très proche. C'est une des personnes qui consulte le plus, donc il ne veut absolument pas le lâcher. Et en prime, ils ont aussi toujours cet éternel problème en Macronie, qui est le problème du casting. Alors, qui est-ce qu'on met pour remplacer Richard Ferrand? Donc il s'accroche, il ne touche pas Richard Ferrand.
Raphaël Haddad, est-ce que ce discours est audible? Vous êtes un expert du discours politique. Hein.
Lequel?
De dire François de Rugy, c'est mal et il doit prendre ses responsabilités, mais Richard Ferrand peut rester président de l'Assemblée.
Moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, je pense que il y a une lecture des affaires, puisque c'est la troisième, il y a eu Benalla, de Rugy et puis maintenant Ferrand. On avait déjà eu un premier épisode Ferrand au début du quinquennat, qui s'explique sans doute par le fait qu'il n'y ait pas d'arrière-ban en fait en Macronie, et que lâcher les premiers soutiens, ça envoie un message à ceux qui sont là qui est épouvantable, et que donc ils y réfléchissent vraiment longtemps avant de le faire. De ce point de vue, François de Rugy n'est justement pas Ferrand, et c'était pas non plus Benalla. Et c'est sans doute ça qui explique les choses. Et puis après, il y a un autre truc qui est quelque chose que moi j'aime pas beaucoup, enfin, qui fait que j'ai pas beaucoup d'estime vis-à-vis du personnel politique lorsqu'il a cette faiblesse-là, c'est d'être fort avec les personnes qui sont affaiblies et puis d'être faible avec les personnes qui sont en position de force. Et on a là Richard Ferrand qui est en position de force et en effet un exécutif qui... quand on se souvient quand même que la première loi votée à l'Assemblée nationale, c'est une loi sur la probité, et qu'on a le président de l'Assemblée nationale qui, 3 ans après, est mis en examen, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui est, pour le coup, vraiment de l'ancien monde, là.
Hein. Marie-Pierre Vieux, acquiesce. Je vous voyais acquiescer. Il y a un deux poids deux mesures au sein de la Macronie.
Oui, c'est manifeste qu'il y a un deux poids deux mesures. Je pense qu'il y a... Il y a quelque chose qui, du point de vue de l'extérieur, de celui qui regarde ça, et reste quand même incompréhensible. Je souscris complètement aux arguments que vous venez d'évoquer. Hein. Je pense que globalement, ceci dit, ça affaiblit Emmanuel Macron. Voilà.
Emmanuel Macron, pas l'ensemble de la classe politique.
En tout cas, Emmanuel Macron, sachant qu'Emmanuel Macron quand même domine largement son camp, donc tout lui revient. Après, ça s'intègre évidemment, on vient de le dire, à la petite musique et à l'idée de classe politique, justement.
Armelle Le Goff, de 20 minutes, rapidement, est-ce que ça existe des procès politiques en France?
Tels que les présente Jean-Luc Mélenchon?
Tels que les présentent tous les politiques, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Nicolas Sarkozy.
Je ne m'avancerai pas à répondre à cette question. Je pense que les institutions fonctionnent et qu'effectivement, comparé comme ça a pu être fait, je crois que c'était dans le JDD, la justice française à celle du Cambodge, ça paraît un peu décalé.
Allez, après la pause, après le rappel de l'information et la météo, on débattra de l'avenir des communistes, puisque se tient cette semaine, ce week-end, la fête de l'humanité. Quel avenir pour le Parti communiste français ? Réponse juste après le journal et la météo sur France Info.
Mes amis, au secours.
L'abbé Pierre a laissé un héritage inestimable. Faites comme lui. Poursuivez son action auprès des plus pauvres, en léguant toute ou partie de votre patrimoine, en souscrivant une assurance vie ou en faisant une donation en faveur de la Fondation Abbé Pierre. Demandez une brochure ou prenez rendez-vous au 01 55 56 37 27. Plus d'infos sur fondationabbépierre.fr.
Votre BMW, êtes-vous prêt à la laisser entre n'importe quelle main ? Chez BMW Service, nos techniciens ont en moyenne 10 ans d'expérience dans la marque, n'interviennent que sur des BMW et ont suivi plus de 240 heures de formation spécifique. C'est dire s'ils maîtrisent la technologie de votre véhicule. Jusqu'au 30 novembre, si votre BMW a plus de 6 ans, bénéficiez de 30% de remise minimum sur les principales opérations d'entretien et de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. BMW Service, votre BMW est entre de bonnes mains. Offre valable dans le réseau BMW participant. Conditions sur bmw.fr.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
20h29 sur France Info, les prévisions météo avec Jean-Michel Golinski et Météo France.
Demain, nous allons sensiblement retrouver les mêmes conditions qu'aujourd'hui, c'est-à-dire un réveil souvent dans la grisaille sur les côtes normandes et bretonnes, rapidement suivi d'un soleil rayonnant sur les deux tiers nord du pays, plus précisément entre la Manche, la moitié nord de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Plus bas, en descendant vers les Pyrénées et la Méditerranée, les nuages qui remontent de la péninsule ibérique vont donner une ambiance plus mitigée et parfois des ondées en montagne. Notez qu'en fin d'après-midi, un risque d'orage va se manifester sur les Pyrénées. Les températures vont gagner quelques degrés par rapport à aujourd'hui sur les régions de l'Est, avec 32 prévus à Lyon, 31 à Dijon, 29 sur l'Alsace et la Franche-Comté. Sur les autres régions, comme aujourd'hui, les valeurs vont varier entre 21 degrés près de la Manche et un maximum de 33 sur le Limousin et la Charente-Maritime.
h 30 sur France Info, toute l'information avec vous Olivia Ferrandi.
Bonsoir, rideau de fer baissé, plaque de bois fixée devant les vitrines. On a revu aujourd'hui les mêmes images que l'hiver dernier à Nantes, ville choisie par les Gilets jaunes pour leur principal rassemblement ce samedi. Ils étaient près de 2000, mais le cortège a été infiltré par 400 Black Blocs selon la préfecture. Ce soir, les dégâts matériels sont manifestes au centre-ville, ce que déplore Olivier Dardet. Il représente les commerçants du centre.
On est un petit peu en colère personnellement quand je vois mes collègues qui vivent ça régulièrement tous les samedis avec une activité qui, vous vous en doutez bien, est catastrophique. Et puis je pense aussi à nos collaborateurs qui viennent déjà difficilement travailler, mais en plus qui travaillent dans des conditions compliquées. Alors, on est obligé de fermer les vitrines, fermer les magasins, enfermer nos clients à l'intérieur. Enfin voilà, c'est pas des choses très agréables, c'est pas des choses qu'on envisage, mais on le subit. Et puis on voit les forces de l'ordre, bien sûr, qui font leur travail de leur côté, mais j'ai pu voir devant moi le McDo être carrément détruit par les Black Blocs. Bon, j'avais mal au ventre de voir ça par rapport à mes collègues commerçants, de voir devant moi et sans pouvoir rien faire, de voir ce commerce détruit. Bon, voilà, c'est pas le but en tout cas. Quand on voit l'énergie qu'on passe pour créer une dynamique dans les centres-villes, créer les animations et les événements, et voir ça dans un samedi après-midi un petit peu détruit, bon, voilà, c'est une forme de colère aussi, quelque part.
Une trentaine d'individus ont été interpellés. Un policier de 32 ans en garde à vue à Sens, dans Lyon, après un accident hier soir, il a renversé un jeune de 16 ans qui circulait sur un scooter. Le policier avait plus d'un gramme d'alcool dans le sang. Une messe, puis un moment de recueillement devant le Monument National des Sous-Mariniers de Toulon. Ainsi a débuté aujourd'hui un week-end du souvenir, un demi-siècle après la disparition du sous-marin La Minerve. Les trois morceaux de l'épave ont été localisés en juillet dernier en Méditerranée, à 45 km des côtes, plus de 50 ans après le naufrage dont on ignore toujours les causes. Des centaines de manifestants à Tallinn, en Estonie, ont appelé aujourd'hui à la démission du Premier ministre. Rassemblement pour protester contre la présence de l'extrême droite au gouvernement, une première depuis la chute du communisme. Un mot de football, la cinquième journée de Ligue 1, Brest face à Rennes, c'est en ce moment Cédric Guillou, le score ?
Et bien 0-0 alors qu'il reste 13 minutes à jouer ici dans un match très rythmé. Il ne manque que les buts pour le moment. 0-0 entre Brest et Rennes.
Neymar se rachète aux yeux des supporters parisiens en offrant ce soir la victoire au Paris Saint-Germain contre Strasbourg. Victoire 1-0, but marqué par l'international brésilien dans les arrêts de jeu. Et puis à l'Euro de volley, deuxième victoire en deux matchs pour l'équipe de France. Après la Roumanie, les Bleus ont battu la Grèce 3-7-0. Ce soir, c'est toujours le premier tour. 20h33, la suite des informés, c'est tout de suite.
Les informés, Neila Latrousse.
Avec Marie-Pierre Vieux, directrice des éditions Arcane 17, Valérie Acco, journaliste politico-parisien, Raphaël Haddad, docteur en sciences de l'information et de la communication, fondateur de l'agence Mot-Clé, et Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes. Pas de grand soir autour de Paris, mais un autre chemin que propose Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Il a pris la parole tout à l'heure à la Fête de l'Humanité.
Hello Alex.
Entendre Fabien Roussel à la Fête de l'Humanité qui se projette déjà dans les municipales. On sait que le Parti communiste français a un certain nombre d'élus, hein, 7000 élus dans 700 mairies. Et on va écouter Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste.
Ce que nous vous proposons, c'est d'avoir une grande ambition pour notre pays, pour l'être humain, pour la planète. C'est écrire ensemble un programme en commun qui nous engagerait tous, de la base au sommet.
Marie-Pierre Vieux, des éditions Arcane 17, un programme en commun, ça fait référence à l'alliance avec le PS en 72, mais un peu aussi, il y a des airs de Mélenchon. L'avenir en commun, c'était le titre de son programme.
Oui, ça fait également référence, me semble-t-il, au fait que c'est pas simplement un cartel de partis, mais qu'on travaille des projets en commun. Et qu'on fait front commun, donc.
Mais avec qui, concrètement,
ben, avec qui, d'après moi, avec la gauche. Alors après, qu'est-ce que la gauche? Écoutez, pour les municipales, a priori, la gauche, elle parle de Olivier Besancenot, aux Insoumis, en passant par les écologistes, en passant par le Parti Socialiste, et en passant par d'autres.
Raphaël Haddad, une alliance qui
non,
passerait
mais là,
par ces partis.
Je découvrais ces images, je le trouve quand même bien bravache.
Fabien Roussel.
Ouais, parce que en fait.
Bravache.
Ouais, il est. Enfin, il me semble, mais il a pas été élu il y a 2 ans en disant il y aura pas d'alliance pendant les élections, pour aucune élection, etc. Il a été élu sur ça. Yann Brossa, qui est l'une des personnalités communistes les plus populaires, fait 2,5% à la dernière aux dernières élections. Et puis finalement, il revient en disant sur un ton très très assertif, mais néanmoins. Qui peut pas faire oublier ce qu'il a dit juste avant. Oui, finalement, on va faire des alliances. Alliances en plus, vous venez de le dire, avec les écologistes, en occultant complètement la question nucléaire, soit dit en passant, qui est quand même une question sur laquelle, à mon avis, les écologistes et les communistes ont pas mal à choper.
Et puis, il faut voir quelle sera la position des écolos. A priori, Yannick Jadot est pas sur une ligne d'alliance pour l'instant. Effectivement, en plus, ce discours assez récemment écologiste du Parti communiste... Et un petit peu électoraliste.
Vous étiez à la Fête de l'Humanité, Armel Le Goff. Dans les allées, c'était plutôt la grande fête ou thérapie collective après les européennes?
Alors, c'était la grande fête. C'est très, très festif, très jeune, très, très tourné aussi, je pense, vers le côté musique, festival. Mais je ne sais pas du tout s'il y avait une dimension politique hier soir à la Fête de l'Humanité.
Marie-Pierre Vieux, les européennes, c'est oublié, on passe à autre chose. La débâcle, c'est déjà du passé?
Non, je crois que les européennes, c'est vraiment pas oublié. Je pense que d'un certain point de vue, ça frappe les militants, parce que cette campagne était une campagne vivante, vivace, et que donc elle a été sanctionnée par 2,5. Donc on se pose des questions, sur son propre avenir. Après, je voulais quand même ajouter un mot sur l'écologie, parce que je crois, et pas simplement à la Fête de l'Huma, si vous alliez en Daï ou contre G7 sur le terrain des altermondialistes, on sent quand même, il y avait d'ailleurs Philippe Martinez en Daï, c'est intéressant, on sent qu'il est en train de s'opérer quelque chose entre la lutte sociale et la lutte écologique. Et dans le discours de Fabien Roussel, il y a eu quand même une phrase sur l'idée que 50% de la population venait des 10% les plus aisés. Et donc, le besoin tout à la fois de travailler différemment l'avenir de la planète, mais en même temps, en s'attaquant à la question de la répartition des richesses et à d'autres questions. Ça ne règle pas la question nucléaire, j'ai bien entendu, mais il a développé sur d'autres questions, les questions de transport et autres, et y compris sur la question nucléaire, il y a une réflexion en cours du fait qu'à un certain moment, le nucléaire devra être dépassé.
Non, mais la question
nucléaire.
Ce que
je voulais dire, hein, mais voilà.
La question nucléaire, elle est emblématique, mais je crois qu'au-delà, il y a même un problème d'imaginaire politique. C'est-à-dire que l'écologie politique aujourd'hui, elle est pétrie d'un imaginaire de sobriété. Hein. On a, pour les plus radicaux, toute une rhétorique autour de la décroissance, etc. Donc on est bien dans un imaginaire qui reste un imaginaire de sobriété, là où, fondamentalement, les communistes restent dans un imaginaire d'abondance, un modèle productif. Et en fait, ça, quoi qu'on en dise, ils peuvent concéder. Et c'est une mue qui est bien tardive, surtout si on se souvient que, par exemple, chez Mélenchon, cette mue-là, elle est opérée dès 2011. L'expression transition écologique, elle apparaît en 2011 dans son discours.
Alors en même temps,
Là face à des ralliés de la 25e heure, quand même. Hein.
Alors vous êtes sémiologue, quand même. Je vous invite, puisqu'on parlait municipal, à regarder les plateformes municipales, y compris le concept de démocratie alimentaire. On en a parlé en aparté tout à l'heure. Et je crois qu'il faut bien regarder tout ça. Et d'autre part, quand même. Je vous invite à écouter Edgar Morin l'autre jour qui a eu un discours extrêmement porteur, me semble-t-il, quand on réfléchit non pas à l'échelle simplement de la fête de l'humain mais de la gauche, sur l'idée qu'il y avait quand même quelque chose à trouver de nouveau entre la tradition socialiste, la tradition communiste et ce qui se passait du point de vue de l'écologie. Et je crois que Fabien Roussel a essayé aussi de capter ça sur la fête de l'humain et d'y répondre positivement.
Valérie Acco, est-ce qu'il y a un terreau favorable pour la gauche au municipal, entre la privatisation d'Aéroports de Paris, entre les sujets évoqués par Marie-Pierre Vieux, les retraites, l'assurance chômage qui change de règle, est-ce que vous sentez dans le pays une envie de gauche?
Pas particulièrement. Ensuite, c'est vrai qu'on a quand même vu vendredi une grève à la RATP, ce qu'on n'avait pas vu d'une manière aussi massive depuis pas mal de temps, sur la réforme des retraites.
Jean-Paul Delevoye, d'ailleurs, s'est fait huer.
Ça va être un sujet qui a été d'ailleurs prudemment remis à après les municipales par l'exécutif. Mais ce sera quand même un sujet qui va s'inviter dans cette campagne. Donc peut-être que ça pourrait effectivement avoir un impact et relancer une gauche qui sont plutôt bien mal en point à l'heure actuelle.
La gauche qui brigue les municipales, le Rassemblement national aussi. Marine Le Pen fait sa grande rentrée demain, suite du débat des informés, 20h40 sur France Info. D'abord, le rappel de l'information avec Léo Téchère.
Avec la rentrée des Gilets jaunes aujourd'hui, des centaines de manifestants à Paris, à Lyon ou encore à Toulouse, mais surtout à Nantes, mobilisation nationale dans la cité des Ducs de Bretagne, 35 interpellations côté manifestants, 5 blessés côté forces de l'ordre et plusieurs vitrines de commerce brisées. L'hommage de 1000 Toulonnais cet après-midi aux 52 membres de l'équipage de la Minerve disparu en mer en 1968. L'épave du sous-marin retrouvée en juillet dernier, hommage à terre donc aujourd'hui, hommage en mer demain en présence de la ministre de la Défense. Donald Trump confirme la mort du fils d'Oussama Ben Laden, Hamza Ben Laden, son héritier à la tête d'Al-Qaïda, a bien été tué au cours d'une opération menée par les États-Unis dans la région de l'Afghanistan-Pakistan, dit le président américain. Le chef indien Rahoni, proposé pour le prix Nobel de la paix, plusieurs anthropologues et écologistes brésiliens estiment qu'il le mérite. Rahoni se bat depuis des décennies en faveur de la forêt d'Amazonie. Il est temps de tourner la page, estime la star du Paris Saint-Germain Neymar. Premier match et premier but pour l'attaquant brésilien ce soir contre Strasbourg, victoire 1-0. Neymar redit qu'il voulait partir cet été, mais qu'aujourd'hui il est au PSG et qu'il donnera tout sur le terrain. En ce moment, Bordeaux mène devant Metz 2-0 et Montpellier fait match nul contre Nice 1-1. Pas de but sur les autres terrains. Et puis le film Boule récompensé à Deauville, le 45e festival du cinéma américain, attribue son grand prix à la réalisatrice américaine dont je vous dirai le nom dans 10 minutes, excusez-moi. Un film politique en tout cas sur le désir d'une jeune fille de vivre ses rêves.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Le désir d'une jeune fille de vivre ses rêves, nous disait Léo Téchère. Elle, son rêve, eh bien, c'est d'avoir une grande vague bleu marine au municipal. Elle, c'est évidemment Marine Le Pen qui rassemble ses cadres du Rassemblement National à Fréjus. Meeting de rentrée demain. Simon Le Baron, vous y êtes pour France Info. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Est-ce qu'il faut s'attendre à des annonces fracassantes demain?
Écoutez, Marine Le Pen a bien pris soin tout à l'heure, parce que nous l'avons rencontré avec les journalistes présents ici à Fréjus, sans micro ni caméra, pour une discussion informelle, mais elle a bien pris soin de maintenir le suspense, de ménager le suspense sur ce qu'elle va dire demain. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'évidemment, elle s'attaquera, la présidente du Rassemblement National, au président de la République, Emmanuel Macron. Elle relance le duel pour cette rentrée du Rassemblement National, parce qu'elle le dit, Marine Le Pen, dans le viseur, elle a déjà l'Élysée et 2022, mais ce n'est pas de sa faute, dit-elle, c'est le président qui l'y oblige, on ne va pas le laisser faire campagne tout seul. En fait, elle fustige le quinquennat qui oblige le chef de l'État à être en campagne permanente et plaide au passage pour un septennat non renouvelable. Alors Marine Le Pen relancera donc ce duel, cette campagne, demain lors de son discours. Elle dira notamment que la crise des gilets jaunes a été, selon elle, une éruption volcanique, et des éruptions de ce genre, comme elle dit, elle en promet d'autres à Emmanuel Macron. Si le président croit que les choses sont réglées, il se trompe, juge Marine Le Pen. Mais elle n'oublie pas qu'il y a évidemment des municipales avant cela, dès le mois de mars prochain, et puis en 2021, deux autres élections très importantes pour le Rassemblement National et Marine Le Pen, les départementales et les régionales. Si le RN échoue lors de ces élections locales, la marche vers l'Élysée sera sans doute trop haute. Vous connaissez d'ailleurs un conseiller de Marine Le Pen, des élections très importantes. Donc, elle devrait appeler encore demain, comme elle l'a fait dimanche dernier à Hénin-Beaumont dans son fief du Pas-de-Calais. Elle devrait appeler les militants à se mobiliser d'abord en votant, bien sûr, et en acceptant d'être candidat sur les listes électorales. Voilà deux des thèmes qu'elle devrait aborder demain, même si les ambitions du Rassemblement National pour les élections municipales sont, comme d'habitude, somme toute assez modestes. Elles sont de conserver d'abord la dizaine de villes acquises en 2014 et de tenter de prendre d'autres communes en périphérie de ces 10 ou 11 villes.
Merci Simon Le Baron à Fréjus. On suivra demain le discours de Marine Le Pen et cette rentrée plus générale du Rassemblement National avec vous. Merci et bonne soirée Simon. Valérie Acco du journal Le Parisien. En quoi cette rentrée est différente pour Marine Le Pen? C'est sa crédibilité qu'elle joue cette fois?
Bon, elle la joue assez régulièrement, sa crédibilité. Donc cette fois-ci, elle est en meilleure posture que la rentrée précédente parce que elle a eu un succès aux européennes. Elle est quand même arrivée en tête. Là, par contre, il faut qu'elle transforme l'essai aux municipales, qui sont un scrutin quand même beaucoup plus compliqué pour le Front National que les européennes, où ils font régulièrement des scores cartons. Mais c'est vrai que sur les municipales, notamment sur les grandes villes, ils ont déjà fait une croix dessus. Éventuellement Perpignan, mais sinon sortie de ça terminée. Et ailleurs, sur cette implantation locale, ça va être compliqué quand même.
Raphaël Haddad, elle se trompe de campagne quand elle veut faire une campagne nationale sur un scrutin municipal, Marine Le Pen?
Non, je crois pas. Enfin, malheureusement, je pense pas qu'elle se trompe de campagne.
La stratégie du référendum
reste. Je pense qu'il y a quand même un élément nouveau dans cette rentrée, c'est que, en effet, il n'y a pas du tout de crise de leadership sur le parti, mais il y a au moins un début ou une amorce de crise de leadership symbolique avec le retour de Marion Maréchal, qui tient elle-même une convention des droites. Et en fait, il y a un vrai débat, d'après ce que j'en vois, à l'extrême droite en ce moment, sur est-ce qu'il faut rassembler les nationaux ou est-ce qu'il faut faire l'union des droites. Et on va avoir, je pense, ce débat jusqu'au municipal au moins, et peut-être même jusqu'au présidentiel. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui justifie le durcissement du discours de Marine Le Pen auquel on s'attend demain.
C'est-à-dire, si je comprends bien, l'objectif, c'est de préempter cette place de premier opposant pour pas laisser d'espace justement à Marion Maréchal Le Pen, c'est ça?
Oui, c'est ça. En tous les cas, Marion Maréchal est aussi un peu attendue sur ce qui va se passer dans deux semaines. Elle a la primauté de l'agenda, Marine Le Pen, et sans doute qu'elle va aussi durcir pour pas laisser de place ou de contestation possible sur son leadership.
Armelle Le Goff, 20 minutes, il y a un duel dans le duel derrière Marine Emmanuel Macron, il y aurait Marine Marion.
Au sein du Rassemblement National, sans doute, enfin, comme vous l'expliquiez, il y a vraiment deux forces qui s'opposent avec cette volonté de déborder sur la droite de Marion Maréchal et Marine Le Pen de rester sur les fondamentaux du Rassemblement National.
Elle reste la patronne de son parti aujourd'hui, malgré tout, Marine Le Pen. On voit, il y a quelques sondages.
Je pense à un parti qui est très légitimiste, donc a priori, elle n'est pas en danger. Après, c'est plus à long terme, sans doute, et c'est là, sans doute, l'enjeu de ces élections municipales, c'est qu'on teste ses forces aussi. Les élections municipales et puis après les cantonales, les régionales. Donc là, on est effectivement dans un discours, je pense qu'elle a raison de s'inscrire dans un discours national parce que c'est ça l'enjeu. C'est pas vraiment les municipales où finalement il reste assez cantonné au nord et puis dans l'Hérault. Voilà, en dehors de ça, pour les municipales, ils sont nationalement très, très cantonnés.
Même question à Marie-Pierre Vieux. Est-ce qu'elle se trompe de campagne ou est-ce qu'un référendum municipal, c'est quelque chose finalement qui a du sens?
Je trouve compliqué finalement comme question parce qu'on sent bien que dans les municipales, on est sur un débat local qui peut échapper à Marine Le Pen. Donc l'idée de référendum peut paraître complètement inadaptée. Et en même temps, je pense qu'il y a des tendances lourdes qui ont traversé les derniers scrutins, parmi lesquels le dégagisme, un certain nombre de choses, y compris le climat ambiant dans lequel on vit, qui peut quand même bénéficier au Rassemblement National. D'autre part, je pense que ça mériterait justement que ce débat du municipal, on l'ancre sur un vrai débat de fond. C'est quoi l'enjeu des municipales? Ben, c'est l'enjeu de l'égalité dans les territoires. Et je trouve que contrer Marine Le Pen là-dessus, alors qu'elle tire le débat avec le Rassemblement National, avec Marion Maréchal Le Pen sur l'identité, ça serait le bon moyen, sur ce terrain-là, peut-être, de contrer son influence grandissante.
Raphaël Adam.
On va boucler la boucle avec le débat avec lequel on a démarré tout à l'heure, parce que on l'a pas cité, mais s'il y en a vraiment une qui est dans une mauvaise situation sur le front judiciaire, c'est bien elle, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des accusations qui sont en apparence à peu près les mêmes pour Mélenchon, pour le Modem et pour Marine Le Pen, mais quand on s'intéresse d'un peu plus près à l'affaire, les faits reprochés au Front National, au Rassemblement National, sont autrement plus graves, puisqu'on parle pas de collaborateurs qui auraient été à cheval ou sur le parti au lieu d'être au Parlement. On parle d'emplois qui sont en fait des faux emplois et d'argent qui a été directement envoyé au parti dans des proportions importantes pour financer plusieurs dizaines de salariés. Donc on est là aussi face à quelque chose qui va exister, qui va jouer dans les prochaines échéances électorales. Marine Le Pen a sans doute aussi ça en tête dans le durcissement qu'elle s'apprête à faire demain.
C'est-à-dire qu'elle puisse jouer, elle aussi, la carte du procès politique, Raphaël Haddad, si je comprends bien.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, je veux pas laisser... Enfin, je profite de l'occasion pour pas laisser s'installer l'idée qu'on aurait là les mêmes accusations, parce que c'est pas vrai du tout. Marine Le Pen est face à des accusations qui sont, en réalité, en tous les cas, de mon point de vue, autrement plus graves. C'est pas pareil d'avoir des chevaux à cheval entre une position au sein d'un parti et une position au Parlement. C'est tout à fait interdit, mais c'est pas pareil que de détourner de manière massive de l'argent du Parlement européen pour financer des salariés du Rassemblement National.
Et la réponse de Marie-Pierre Vieux, juste après le rappel de l'information avec vous, Léo Téchère. Il est 20h50 sur France Info.
Marine Le Pen ne veut pas laisser Emmanuel Macron faire campagne seul pour 2022. Le Rassemblement National fait sa rentrée ce week-end à Fréjus et sa présidente estime donc que le chef de l'État est déjà en campagne présidentielle. Les municipales seront, dit-elle, une marche à gravir vers celle de la présidentielle. Deuxième soirée en prison pour Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret en quartier pour personnes vulnérables. Ce qui n'est pas un traitement de faveur, assure sur France Info l'ancien directeur de la prison de Fleury-Mérogis, Joachim Pueyo, qui estime qu'il est nécessaire pour les personnes médiatiques importantes de les écarter du reste de la population pénale. Tension grandissante aujourd'hui à Hong Kong où plusieurs bagarres ont éclaté. Des partisans pro-gouvernement attaquant les militants pro-démocratie. La police de Hong Kong ne fait pas de commentaires. C'est la mi-temps sur les terrains de Ligue 1. Bordeaux mène contre Metz 2-0. Un partout entre Montpellier et Nice. Et pas de but entre Brest et Rennes et Dijon et Nîmes. Tout à l'heure, Paris l'a emporté en toute fin de match contre Strasbourg 1-0 et but forcément de Neymar qui jouait son premier match de la saison après un été mouvementé. Et puis je vous le disais il y a 10 minutes, c'est la réalisatrice Annie Silverstein qui est récompensée par le Festival du cinéma américain de Deauville. Alors son nom m'avait échappé, c'est son premier film Bull qui remporte le Grand Prix du Festival.
France Info et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neila Latrousse.
Et cap sur les municipales pour l'ensemble des partis, et notamment pour Marine Le Pen qui fait demain son meeting de rentrée. Marie-Pierre Vieux des éditions Arcane 17, est-ce que l'agenda judiciaire peut contraindre ce scrutin en ce qui concerne le Rassemblement National?
Je pense que c'est un facteur qu'ils vont devoir intégrer. Je partage également l'idée que on est sur une autre échelle. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent du point de vue sémantique ce que je dis là, mais que les cas précédents évoqués, parce que c'est vrai que sur Bruxelles, la question des assistants était un véritable système qui visait à financer le Front National. Et en même temps, politiquement, je pense que cette manière de se victimiser, cette manière également de jeter l'invective sur la presse, sur le monde politique, est quelque chose qui rapporte beaucoup plus au Rassemblement National que ça ne peut rapporter à d'autres, y compris à Jean-Luc Mélenchon. Ce qui me fait dire d'ailleurs, je n'avais pas dit tout à l'heure, que je pense que sa stratégie n'est pas opérante à Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je pense qu'elle peut beaucoup plus marcher sur Marine Le Pen.
Ce qui me donne l'occasion de rappeler que Jean-Marie Le Pen a été mis en examen dans cette affaire des assistants parlementaires. Cette affaire est très ancienne, Valérie Acco. Pour autant, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur les résultats du Front National devenu Rassemblement National depuis.
Ça n'a eu absolument aucun impact. Vous rappeliez que Jean-Marie Le Pen vient d'être mis en examen. Marine Le Pen est aussi mise en examen dans le cadre de cette affaire, tout comme Louis Alliot, enfin tout comme une bonne partie des cadres du Front National. Ça ne les a pas empêchés de se qualifier pour le deuxième tour à la présidentielle, ni d'arriver en tête aux européennes.
Comment vous l'expliquez ?
Je pense qu'il y a une déconnexion entre effectivement les affaires judiciaires. On l'a vu pour Balkany. Balkany, il a été réélu à Levallois après avoir été condamné. Je pense que les électeurs ne regardent pas forcément ça en première ligne. Les électeurs qui votent pour Marine Le Pen votent maintenant, pour l'essentiel, parce que par conviction, pas simplement par ras-le-bol. Et aussi, ce discours victime de Marine Le Pen marche aussi auprès de ses électeurs, parce qu'elle est un petit peu toujours dans la théorie de on me persécute parce qu'on veut m'empêcher de parler. Et quelque part, ça marche auprès de ses électeurs aussi.
Dimanche dernier, Marine Le Pen, pardon, qui faisait sa première rentrée, ou en tout cas son premier discours de rentrée à Hénin-Beaumont, où elle a révélé les premiers thèmes de cette campagne municipale, l'insécurité notamment, le localisme, pour revenir un peu sur l'écologie, le localisme, ça veut dire quoi, Raphaël Haddad ?
Je découvre ce mot. J'imagine que ça veut dire qu'il faut mener la politique à l'échelon local, peut-être même à l'échelon ultra-local. J'ai entendu le mot ultra-local surgir dans la campagne.
Si je peux me permettre, je crois que le local, c'est plutôt produire, consommer local. En fait, c'est un peu ça, l'écologie sauce Rassemblement National, pardon. Ouais. On va produire sur place. Voilà, c'est leur approche de l'écologie.
C'est quoi ? C'est une invention sémantique, Raphaël Haddad ?
Ouais, c'est ça. Mais on en a beaucoup. Les mots en isme, c'est assez classique. On a eu il y a 15 ans communautarisme, on a dégagisme, ça ressemble à locavore version Front National, cette affaire, en fait.
Marie-Pierre Vieux, est-ce que le Rassemblement National peut réussir cette OPA, si vous me permettez le terme, sur l'écologie ? Ça vous semble compliqué ?
Comme ça, immédiatement, je vous dirais difficilement. Ceci étant, je pense qu'ils vont utiliser ce ressort de localisme, oui. Non. Comme ça, je trouve pas que l'écologie s'y est beaucoup au Rassemblement National. Mais ceci dit, j'ai pas de réponse pour être complètement honnête.
Armel Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes. Le localisme sauce Rassemblement National, le Rassemblement National qui se repeint de vert, est-ce que vous y croyez ?
Pas tellement, et puis en tout cas à l'échelon local, ça leur, ils ont parfois quand même de grosses difficultés, je pense, donc à l'échéance qui vient, au municipal, à avoir des candidats qui soient fiables. Enfin, on a quand même une structure partisane qui est pas très au point en ce qui concerne les candidats et leurs investitures.
Simon Le Baron disait un appel aux jeunes à se présenter. On sait qu'il y a eu
aussi
des mains
tendues à la
société
civile. C'est un problème de légitimité pour le parti. Et à l'échelon local, ça se mesure quand même particulièrement, je pense.
Il y a une difficulté à boucler les listes d'une certaine façon, à trouver.
Chaque année, à chaque échéance électorale, c'est compliqué de boucler les listes, puis d'avoir des candidats qui puissent tenir et la campagne et échapper à quelques scandales. Enfin, on a vu ça à chaque échéance ces dernières années.
Il y a un traumatisme du dérapage, Valérie Acco. Vous avez longtemps suivi Marine Le Pen pour Le Parisien.
Oui, pendant environ 4 ans, effectivement. Et c'est rien de nouveau sous le soleil. Il y a la difficulté de constituer des listes pour les municipales. Il est même arrivé par le passé que le Front National se fasse attraper la main dans le sac parce qu'ils avaient fait signer des gens sans qu'ils soient au courant. Donc c'est pour vous dire à quel point le problème n'est pas récent.
Je peux rajouter un point. Ceci dit, je pense qu'il y aura une difficulté pour toutes les forces politiques à trouver des candidats aux municipales.
Pour quelles raisons ?
Mais parce que je pense que toutes les forces politiques aujourd'hui, tous les partis, sont en difficulté. C'est-à-dire qu'on vient, d'évoquer celle de Marine Le Pen à monter des listes, mais quand on regarde bien, enfin moi, si je m'en réfère, je suis provinciale à l'expérience que je peux avoir sur mon territoire, à ce que j'en vois en tout cas, ça concerne à la fois toute la gauche, mais ça concerne également la droite dite classique.
Oui, c'est une crise d'attaque quand même sur les élus, une insécurité exprimée par les élus au niveau local. Effectivement, c'est pas extrêmement engageant pour des candidats de se présenter.
Raphaël Haddad, il y a une crise d'évocation que vous sentez, vous, en
politique ? Non, mais là, c'est vrai que la difficulté classique pour le Front National, c'est que ils ont plus de chances d'être élus dans des petites villes, parce que en effet, les modalités du scrutin font que c'est plutôt dans les plus petites villes qu'ils ont des chances de gagner des choses, et c'est là que c'est le plus difficile de constituer des listes. Donc ça, c'est une quadrature du cercle pour le Front National particulièrement, auquel ils se confrontent depuis longtemps, et avec des succès qui restent des succès relatifs, même si la montée élection après élection du Front National, moi, m'inquiète à titre personnel.
Merci. 20h57 minutes sur France Info. Merci à nos informés du samedi. Marie-Pierre Vieux, directrice des éditions Arcane 17. Valérie Acco, journaliste politique au Parisien. Raphaël Haddad, fondateur de l'agence Mot-Clé, docteur en sciences de l'information et de la communication. Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes. Tout de suite, la météo, le journal.